BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face.
Comme tous les jours, à l'entame de cette deuxième heure d'Intégral Placement, deux experts sont sur le plateau pour notre face-à-face. Philippe Béchade et Serge Négrier sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Serge Négrier pour Marignan Gestion et Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien et les Éconoclastes. Regarde déjà sur ce marché, un coup dans le rouge, un coup dans le vert, on se cherche encore, Serge ?
Oui, mais enfin, on continue la tendance haussière. Rien ne semble quand même arrêter nos marchés en Europe pour les raisons que nous connaissons, qui sont abondamment commentées ici chaque jour. Rien ne semble l'arrêter et surtout pas la poursuite de la baisse des rendements sur les marchés obligataires dont on parle aussi beaucoup et c'est sans doute pas terminé. C'est bien sûr excessif tout ça.
On a vu notamment le 10 ans français
tomber sous
les 0,4 ce matin.
Mais le problème c'est que vous trouverez pas actuellement sur la place de gérants benchmarkés qui vont oser prendre des positions contraires.
Tout le monde est un peu moutonnier.
Exactement. Or, nous savons très bien que tout ça est excessif. Les PE sont excessifs. On aura des corrections absolument très très violentes sur certains secteurs, certaines valeurs au fur et à mesure que nous aurons quelques résultats. Parce que, bien entendu, le marché va trop vite. Et donc, on anticipe trop vite une progression assez forte des résultats et des chiffres d'affaires. Et tout ça ne va pas exister dans le trimestre actuel. Donc, on aura des corrections. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura des arbitrages. Et comme il y a des fusions ou acquisitions... Et il y en a beaucoup, de part et d'autre de l'Atlantique, mais un peu plus également en Europe. Et tout ça, ça soutient les uns après les autres les différents secteurs. Il s'agit même pas d'ailleurs d'être sur forcément la proie, mais il s'agit d'être présent sur ces secteurs qui sont à chaque fois revalorisés par ce système qui s'auto-entretient.
On va revenir sur tous ces points que vous avez mis en avant dans le détail. D'abord, un petit tour d'horizon de la planète économique, j'ai envie de dire, puisque ces dernières heures, on a eu le traditionnel exercice avec le rapport de printemps du FMI. Comment est-ce que vous jaugez, Philippe Béchade, finalement, cette planète finance entre les États-Unis, l'Europe et puis les questions émergentes, le match notamment Chine-Inde. Comment est-ce que vous le regardez évoluer un petit peu?
Déjà, le FMI, on va dire qu'il tient presque un double langage. Alors, les prévisions qu'on a hier sont plus optimistes. Et on a Christine Lagarde qui nous met en garde, justement, ouais. contre une bulle. Bien entendu, on n'y est pas encore, hein, naturellement, avec des PER à 200 sur certains ETF en Chine, avec du 22%, enfin, avec du 22 sur le Nasdaq, si on s'en tient à des calculs, on va dire classiques, mais on est plutôt autour de 24-25, si on prend les PER forward. Donc, les marchés, effectivement, sont drivés par les liquidités. Et en Chine, on n'a même pas encore commencé à injecter les liquidités que Hong Kong s'envole pratiquement de 10-12% en une semaine. Regardez ce matin, Hong Kong commence en repli de 2,25% et finit à plus 0,5%. Pourquoi ? Parce que les chiffres sont horribles. Bon, c'est vrai, 7% de croissance, c'est exactement ce qu'on attendait.
On oui, c'est la croissance, on est d'accord.
On craignait pire. Bon, il est évident que ce
chiffre... Il y a eu les imports-exports qui ont posé question.
Ce chiffre qu'on nous a annoncé ce matin, évidemment, il est politique, il n'est pas vrai. C'est pas la vraie croissance chinoise. Tout le monde le sait. La production industrielle, c'est pareil, c'est pas la vraie production. La consommation, en revanche, elle est au plus bas depuis 9 ans. Enfin, le rythme de progression est au plus bas depuis 9 ans. Donc, manifestement, en Chine, on a un ralentissement. Donc, on va avoir de l'injection monétaire. Donc, on va avoir une super ration de drogue pour euphoriser tout ça. Et vous avez vu qu'en Chine, on n'a même pas besoin d'avoir l'argent pour que les marchés s'envolent. Donc, la Chine est en quelque sorte... peut-être le précurseur de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que la Chine est dans l'hyper-spéculation, alors que même en Inde que vous citiez, eh bien là, on table quand même sur des vrais investissements d'infrastructures, et Dieu sait que l'Inde en a besoin. Donc, je veux dire, c'est presque plus sain, effectivement, d'aller investir en Inde que de mettre son argent en Chine, ou vraiment entre Shanghai, Schengen ou Hong Kong, il n'y a pas de différence avec Macao.
Oui, et Macao, l'empire du jeu, on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas saisi l'allusion. Serge, c'est la vraie préoccupation, cette zone chinoise, parce que on a l'impression finalement qu'on a une zone américaine qui est bien encadrée, où la banque, où la réserve fédérale drive pas mal son truc. On a l'impression que la Banque Centrale Européenne, ça y est, s'est installée dans sa posture de quantitative easing et que la question, elle vient vraiment de la Chine.
La question, il y a un port forcément de la Chine. La Chine s'auto-entretient elle-même. Les autorités chinoises, les autorités politiques et monétaires ont largement la possibilité de faire exactement ce qu'ils veulent. De toute façon, en parfaite autonomie.
Mais l'économie répondra forcément.
Et l'économie, mais peu importe.
Ah oui.
Peu importe. Vous avez certains secteurs, notamment liés à la consommation interne en Chine, qui fonctionnent assez bien. Simplement, il faut être sur les bons vecteurs. Le vrai problème, c'est que, et comme le disait à juste titre Philippe, on n'a pas encore commencé un véritable assouplissement monétaire en Chine, que la hausse est déjà faramineuse depuis le mois de novembre. Elle est essentiellement technique ces dernières semaines avec un rattrapage de Hong Kong.
On va dire qu'en Europe aussi, on a longuement résisté par la seule parole de Mario Draghi, sans mettre un eurocent sur la table.
Oui, c'est vrai, mais ceci dit, jusqu'au mois d'octobre, via les États-Unis, on avait quand même pas mal baissé en très peu de temps sur les marchés. Et depuis la promesse d'intervention, plutôt en fin d'année, de la BCE, on a senti les marchés frémir et ça s'est accéléré à partir de la mi-janvier, quand on a eu la quasi-certitude que ça y est, on allait y aller. Et puis ça s'est accéléré, on l'a vu sur les trois derniers mois, et c'est peut-être pas terminé, ce qui est un petit peu dommage, parce que en termes d'analyse fondamentale des sociétés, tout le monde est un peu perdu. On n'a pas de normes pour ça. Et les seules normes qu'on avait étaient par rapport à des taux d'intérêt qui étaient encore positifs. Or, ils sont négatifs et ils pourraient se creuser également. Donc voilà, tous les excès sont permis. Mais encore une fois, on va sans doute continuer encore pendant quelques temps cette course en avant qui se terminera, je ne sais pas trop comment, mais quand on a 2000 milliards de dollars, je crois, de dettes sur la planète qui offrent des rendements négatifs, dont à peu près la moitié ou 80%, je crois, qui appartiennent à l'Europe, ça peut faire peur. On spolie l'épargne, on supprime de l'épargne et de l'autre côté, on amasse des dettes au niveau des plus hautes instances. C'est-à-dire que si demain on constate, et ça peut être le cas aux États-Unis, que la croissance fait pchit, on n'a plus d'autres possibilités que de refaire un QE4.
Oui, parce que la banque n'a pas encore relevé ses taux et qu'elle n'a plus...
En Europe, on n'aura pas d'autres possibilités, peut-être dans quelques temps, si on voit que la croissance fait pchit, que de dire on n'a plus de moyens, puisqu'on a déjà des taux d'intérêt négatifs et qu'on a mis déjà 60 milliards par mois, etc. Donc ça peut faire peur, parce qu'on est en territoire inconnu. Mais pour les épargnants qui ont compris que l'épargne sans risque, ça n'existait plus, et surtout que l'épargne sans risque offrait des rendements négatif et donc demain des risques énormes en cas de retour de l'inflation par exemple, eh bien elle est obligée, cette épargne, d'aller sur des actifs dits à risque qui eux continuent de grimper. Donc tout est à risque sur la planète et donc les bulles les unes après les autres se superposent.
Si cette bulle, si plusieurs bulles se superposent, c'est intéressant de voir Mario Draghi à l'action aujourd'hui, Philippe Béchade ou pas. Est-ce que cette réunion, on a presque un peu l'impression que ce sera un non-événement, que Mario Draghi n'a pas grand-chose à nous dire
Ce qu'il va nous dire, c'est que son plan se déroule...
Il a de quoi nous surprendre ou pas, Mario Draghi?
De toute façon, il ne pourra que tenir un discours d'auto-satisfaction, d'auto-célébration. De toute façon, Monsieur Mario Draghi est désormais le maître du monde. C'est lui qui fixe la valeur des actifs, tout comme la Banque Centrale du Japon. Il n'y a pas de marché quand il y a un acheteur et qui décide de la valeur de toute chose. Ça ne s'appelle pas un marché. Et le marché est complètement déconnecté de la réalité. Regardez les discours qu'on nous tenait, ne serait-ce qu'aux États-Unis au mois d'octobre dernier. On nous expliquait, c'est même Goldman Sachs qui le faisait très très bien, que la baisse du prix des carburants, du prix du fuel, etc., avait restitué pas moins de 7% de pouvoir d'achat aux Américains. Ce qu'on allait voir faire exploser les ventes, Thanksgiving, Cyber Monday, Noël, ça allait être un feu d'artifice. Résultat des courses, 3 mois de contraction consécutive de la consommation et enfin un rebond au mois de mars de 0,9%. Ouf ! on attendait plus 1,2. Mmh. Autrement dit, 7% de pouvoir d'achat restitué, 1% consommé. Vous avez l'alignement des planètes au Japon depuis déjà 2 ans, puisque l'effondrement des matières premières a commencé en 2013, suivi par la baisse du pétrole en 2014, mais on avait déjà des taux zéro et un QE massif dès fin 2013. Y a-t-il plus de croissance au Japon, plus de consommation? Il y a rien de tout ça, et l'inflation est toujours à zéro. Heureusement qu'ils ont monté la TVA de 2%, sinon on serait carrément négatif. Donc, les QE, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, on ne peut pas faire autrement, effectivement, que d'y aller encore plus fort, d'y aller encore plus vite. Et l'économie, en fait, eh bien, elle rugit, elle fait de la fumée. On a mis encore plus de carburant dans le réservoir. On a mis un double carburateur sur le moteur. Mais le châssis, lui, il est posé sur des parpaings, et l'économie, elle n'avance pas. On n'a pas pensé à la transmission et aux roues. Et les roues, c'est nous. C'est nous, les vrais gens, ceux qui payent leurs impôts, ceux qui consomment, ceux qui prennent des crédits. Et dire que les crédits ne coûtent pas cher, ça ne veut rien dire. Parce que ceux qui n'ont pas les moyens d'emprunter, eh bien, les banques ne leur prêtent pas.
Et est-ce qu'il a les moyens, ou l'envie, ou la possibilité de nous surprendre, Mario Draghi, cet après-midi, Serge Negri?
On ne voit pas trop d'où ça peut venir. La surprise, ce serait qu'il indique que c'est reparti un peu plus vite que prévu, mais ça,
annonce un tapering.
Il nous a déjà donné quelques informations le mois dernier en donnant ses prévisions pour l'année en cours et l'année suivante. Ça a d'ailleurs surpris pas mal de spécialistes. La surprise, ça pourrait venir de dire que finalement, il serait peut-être pas nécessaire de maintenir les rachats d'actifs de 60 milliards aussi longtemps que prévu, mais je le vois pas dire ça très 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 vite, ce serait très très mal perçu. Et pourtant, à titre personnel, je pense qu'il y a aucune raison qu'on les maintienne pendant 18 mois.
Philippe,
ça sert à rien.
Mais ça ne sert à rien, mais ça fait des années que les QE ne servent à rien. Ça n'empêche pas de les perpétuer, Serge. C'est vrai.
Du coup, le coût de l'argent, enfin le rendement, est toujours au cœur de la problématique de placement. Serge, comment est-ce qu'on fait pour créer une allocation aujourd'hui? On est obligé, enfin on n'a pas le choix. Il y a que les actions, parce qu'on voit que, y compris sur le corporate, on a 1000 milliards de corporate en euros qui sont en dessous d'un pour cent.
Voilà. Tout dépend de ce que vous avez fait jusqu'à présent, si vous avez su prendre les trains en marche. Donc déjà, il fallait prendre le train en marche. Et si vous avez su prendre les trains en marche parce que vous avez bien identifié que c'était les banques centrales qui faisaient vos gains à venir, au moins à court terme, vous avez déjà gagné beaucoup d'argent, à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions. Et donc, si vous étiez bien investi, vous avez tout intérêt, par les temps qui courent, en sage père de famille que vous pouvez être, à prendre régulièrement vos profits sur ces deux classes d'actifs et à garder un petit peu quelques liquidités. De toute façon, c'est pas la peine d'aller les placer. Vous allez perdre de l'argent pour du sans risque. Et puis aussi parce que c'est la volonté des pouvoirs publics, dépenser cet argent, dépenser ces profits en les investissant, en consommant. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'en fait on essaye de supprimer de l'épargne, et on supprime déjà le rendement de l'épargne, on supprime les rendements sans risque, et on incite finalement ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont gagné ces derniers temps.
Donc on revient à notre vieux grimoire boursier, et on fait sell in May and go away.
Peut-être également, on a ça aussi en perspective. Alors d'autant plus que on a quelques doutes sur la politique monétaire américaine, et qu'on se dit que par précaution, finalement on pourrait sortir. Mais je pense pas que ça aille bien loin, ces consolidations. Je parle de la zone Europe. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on a une ou deux séances un peu timorées, tout de suite elle est mise à profit par les suiveurs qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans le train en marche. D'où les excès que nous avons. Donc heureusement, nous arrivons dans des périodes de publication d'entreprises, et là on va faire le tri. Ça commence aux États-Unis, c'est beaucoup trop tôt pour.
On va faire le tri, ça veut dire que.
C'est-à-dire qu'il va y avoir des perdants et des gagnants, personne ne sait trop. Vous allez avoir un certain nombre de secteurs qui ont été surjoués, et puis on va s'apercevoir qu'à 16, 17, ou comme le dit Philippe, 22, 30 fois les résultats, c'est beaucoup trop. On va tenir compte bien sûr des parités de change, mais on va regarder s'il y a de la croissance organique, on va regarder si on augmente les free cash flow, on va regarder regarder les endettements des entreprises et surtout on va regarder les chiffres d'affaires. On va regarder la capacité des entreprises à faire du pricing power.
Non, vous ne croyez pas, Philippe, aux chiffres d'affaires?
Faut surtout pas.
Bah oui,
ça,
non,
c'est
mais voilà. Non, mais pour certaines, c'est le cas. Il y en a certaines qui ont encore la possibilité de fixer leur prix. D'autres, peut-être demain. On parle aujourd'hui de Michelin qui a connu des périodes extrêmement délicates. On voit le prix de la matière première frémir un petit peu, et puis Michelin se restructurer un petit peu. Voilà, on peut se dire que peut-être que Michelin va enfin retrouver un peu de pricing power qui faisait son succès en bourse, alors que ces derniers temps c'était pas le cas.
Philippe, ces résultats, ils peuvent effectivement conduire à des arbitrages, à des questions, à une nouvelle stratégie. Ils peuvent amplifier par exemple la restructuration de certains, les OPA. On voit notamment les fusions-acquisitions qui bouillonnent. On a encore l'exemple avec Alcatel.
Voilà, ce n'est pas du tout lié aux résultats. C'est lié, en fait...
Il n'y a pas qu'à Alcatel.
Oui, mais les OPA, en général, ne sont pas liées aux résultats. Elles sont liées au fait que les vrais initiés constatent qu'il n'y a pas de croissance dans le monde. Faut être quand même réaliste. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en termes d'économie dans les entreprises. Enfin, on est en train de racler l'os, on essaie de réduire au maximum les frais de fonctionnement, les frais fixes, on externalise, on est au maximum de ce qu'on peut faire. Donc tout ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, comme on n'a pas de croissance du chiffre d'affaires, qu'on n'a pas véritablement de pricing power dans de nombreuses branches, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, effectivement, on grossit. On pense, et on est déjà arrivé à un total de fusion, acquisition et d'OPA qui, en 3 mois et 15 jours, dépasse, je crois, plus de la moitié du total de l'année 2007. En termes d'introduction, on y est allé très très fort. Et les résultats des entreprises, eh bien, en Europe, ils seront forcément meilleurs mécaniquement. Un effet de base qui sera positif, bien sûr, plus l'effet change. Et là, il va falloir qu'on regarde exactement quel est cet effet change. Parce que si on nous annonce 8% de croissance des bénéfices, on est en dessous de ce qu'on aurait pu faire mécaniquement. Tout simplement. Donc, il est même pas certain que la baisse de l'euro ait dopé à ce point les résultats des entreprises. En ce qui concerne les entreprises qui, elles, ont du free cash flow, elles ne l'investissent pas. Regardez les chiffres, là aussi, de l'INSEE, mais regardez aussi les chiffres de la BCE. Les entreprises n'investissent pas. Et aux États-Unis, c'est pareil. Et on devrait atteindre cette année, je crois, 1000 milliards de rachats de ses propres titres. Autrement dit, on est bien dans une logique complète pour les initiés de monde sans croissance, où pour donner plus de profit à l'actionnaire, on rachète ses propres titres, on divise le gâteau en moins de parts, et on fait une stratégie de Pac-Man où on passe son temps à se manger avec de l'endettement à zéro, mais tout ça ne va rien générer ni en croissance et surtout pas en emploi, parce que quand on rachète son concurrent, eh ben c'est pour faire des économies d'échelle.
On imagine. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face. Philippe Béchade, Serge Négrier était avec nous ce matin. Philippe Béchade pour La Bourse au quotidien, Serge Négrier pour Marine.